À lui il règne la puissance et la gloire. Amen. Ainsi se conclut à peu près la prière que nous disons ensemble et à haute voix tous les dimanches. À Dieu seul la gloire, soli deo gloria en latin. C'est le premier, vous le savez, des principes du protestantisme. Et ce principe, en fait, ne fait que redire ce que dit l'ensemble de la Bible. Et à ce qu'on appelle la doxologie du Notre Père, que je vous ai dite donc au début de cette prédication, le principe protestant ajoute seul, à Dieu seul la gloire. Un principe qui dit autant que ce qu'il ne dit pas, que ce qu'il non dit, à savoir à personne d'autre qu'à Dieu la gloire. Mais ce non dit, pourtant si logiquement évident, n'a pas été vraiment entendu. Peut-être que le protestantisme aurait dû le préciser. Oui, je tiens à compléter mon propos. À Dieu seul la gloire, ça veut dire la gloire à personne d'autre, à quoi que ce soit d'autre, un monarque, un chef, un patron, une patronne, un pater familias, moi-même. Non. Mais disons-le, le rappel protestant du XVIe siècle n'a pas convaincu l'ensemble de l'humanité, et loin s'en faut. Ainsi donc, ce principe biblique a vogué de dérive en dérive, de monarchie en pseudo-théocratie jusqu'à un moment que des gens, des intellectuels, ont appelé la sécularisation, un mot censé désigner la connexion de la religion du reste de la société. L'ironie du choix de ce mot est qu'il appartenait et qu'il appartient toujours au lexique religieux catholique. Un moment donc où la religion, mais plus précisément la nécessité de se référencer à la Bible, disparaissait jusqu'à être considérée comme dépassée. Certains ont fini par remarquer, pas des théologiens officiels mais des philosophes qui avaient le champ libre, eux, qu'en fait les codes, l'empreinte, la structure élaborée patiemment à coups de conciles dans les premières années du christianisme et en particulier du catholicisme occidental, eh bien tous ces codes, ces empreintes n'avaient jamais cessé d'agir. Tout était toujours là, mais invisible. Et pour revenir à notre doxologie initiale, dans un monde qui avait cru péremptoirement cloisonner ce qui était de l'ordre du religieux et ce qui était de l'ordre du politique, cette nécessité d'associer au règne, à la puissance, la gloire était toujours là. Qu'elle avait, cette nécessité-là, toujours été présente. Avant que Dieu ne fût relégué dans une sphère religieuse, il était encore possible de protester, comme le fit le protestantisme au XVIe siècle et bien d'autres mouvements religieux avant lui. Après que Dieu eût été obligé de devenir un personnage de la narration d'une communauté particulière et de rester enfermé dedans jusqu'à la fin de ses jours présumés éternels, après que le politique n'a plus été obligé finalement de l'avoir, ce Dieu, comme on va dire une épée de Damoclès sur sa tête, hein, d'être obligé d'aller se faire sacrer et consacrer dans des cathédrales, tout est apparu clairement à ceux qui se sont amusés à vouloir regarder la réalité en face. Le règne doit être associé à la gloire, sinon il n'est rien. Et puisqu'il n'y a plus de Dieu, ou qu'il reste muet dans la case qu'on lui a donnée, ou qu'il profère uniquement des paroles lénifiantes et inutiles, alors le pouvoir politique a pu s'épanouir tranquillement, s'étirer au soleil comme un lion affamé fraîchement sorti de sa cage. Oui, tout se voit clairement. La gloire est l'additif obligatoire du pouvoir qui se veut ou se croit absolu. Est-ce nécessaire de décrire les architectures hitlériennes ou staliniennes? Est-il nécessaire d'évoquer le cinéma réquisitionné pour évoquer les hauts faits de grands hommes, leur grande humanité, leurs sourires affectueux devant des enfants, des ouvriers, devant des immenses foules rangées, qu'elles soient ces foules russes, chinoises, allemandes ou européennes diverses, la gloire avec le règne. Est-ce nécessaire de convoquer les pyramides, celles de messieurs Napoléon, Mitterrand, Macron, ou le mur même de monsieur Trump? La gloire aime les monuments et les images, et elle doit s'allier avec le règne. Est-ce nécessaire d'invoquer tous ces petits et grands médias aux ordres que l'on croit quand on a un peu d'esprit critique, destiné à répandre la doxa du souverain, mais qui profondément ne sont là, pas que pour ça. Ils sont là, ces médias, petits et grands, pour chanter les louanges. Ce sont littéralement des psalmistes. Et qu'on y croit ou pas, à cette fabrication de paroles. L'important est que tous ces psalmistes et courtisans soient là, parce qu'ils sont là pour fabriquer la gloire. Ce sont des ouvriers de la gloire. Et doxa, qui veut dire en grec opinion, veut aussi dire gloire. Ils sont le rempart invisible pour sans cesse rappeler la puissance, le poids, et c'est ce que dit le mot gloire en hébreu, le poids du souverain. Le règne, la puissance et la gloire. L'on peut cependant remarquer que les pays qui ont gardé une empreinte protestante forte, et je ne parle pas vraiment des États-Unis, mais plutôt des pays d'Europe du Nord, mais aussi du Royaume-Uni et un peu de l'Australie, n'ont pas eu besoin d'associer la gloire aux tenanciers du pouvoir. Sans doute parce qu'ils ont gardé, par exemple, une monarchie ou des monarchies sans pouvoir, mais dont la fonction est de recueillir la gloire, mais sans la puissance. Mais les autres, tous les autres, c'est bien le règne, la puissance et la gloire associés. Ces premiers pays-là sont une minorité dans les systèmes politiques du monde. Eh bien, cette hypothèse ne fait que collecter des faits qui l'alimentent. Oui, ils ont besoin de gloire, et c'est cette gloire que nous leur conférons au lieu de la conférer à Dieu seul si nous étions totalement protestants radicaux. En effet, aujourd'hui, qui aurait désormais envie de donner gloire à un Dieu enfermés dans une cage. C'est cette gloire qu'ils ont réussi à rafler et qui font de leur puissance et aussi évidemment, très souvent, leurs erreurs, leurs errances, leur folie. Oui, aujourd'hui, c'est la fête des rameaux, ce jour qui rappelle qu'un jour, Jésus est entré, dit-on, en gloire à Jérusalem. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire ou vous redire, comme si c'était une nouveauté, une découverte exceptionnelle, que les récits évangéliques, 4, qui racontent cette entrée à Jérusalem de Jésus, déconstruisent tous les codes de la gloire et de la puissance. Oui, Jésus entre sur un petit animal, un petit âne, qui a inspiré par exemple la première caricature de Jésus, appelée le graffiti d'Alexamenos, gravé sur un des murs du palais impérial de Rome autour du 1er siècle. Mais évidemment, c'est un petit âne, comme dans la prophétie du prophète Zacharie, au chapitre 9, verset 9, livre de Zacharie. Sois transporté d'allégresse, Sion, la belle. Lance des acclamations, Jérusalem, la belle. Il est là, ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est pauvre et monté sur un ânon. Le petit d'une ânesse. Et non pas un cheval fougueux comme les chevaux des légions romaines qui pénètrent des places fortes. Un petit âne, et pourtant, c'est celui qui est dessus qui est le roi. Juché sur l'âne de Zacharie, le Messie, selon ce prophète, dont la marque originale sera de briser l'arc de guerre et de supprimer le char de combat, il proclamera la paix pour les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui-ci qui entre à Jérusalem, ce n'est pas la gloire qu'il cherche, parce que celle-ci, il le sait, il le dit, ne reviendrait qu'à Dieu seul. Mais ce n'est pas non plus le pouvoir des armes qu'il favorise, contrairement à tous les glorieux souverains. Mais alors, tous ces gens qui jettent leurs vêtements et des rameaux sur sa route, qui sont-ils? Ne sont-ils que des instruments mobilisés pour sa gloire? Des psalmistes, au sens littéral du terme? Pourquoi sont-ils là? Qu'est-ce qu'ils croient? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils comprennent le sens de la prophétie de Zacharie. Peut-être qu'ils étaient là parce qu'ils attendaient un véritable Messie glorieux, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas. Mais ce que je sais en revanche, c'est que cette effervescence, cette apparence de glorification médiatique sera de courte durée. C'est pourquoi, malgré toute l'emphase que les liturgies habituelles des rameaux, certains cantiques mettent sur cette fête des rameaux, censée dire la gloire du Messie à la conquête de Jérusalem, cette apparence de liesse, plus ou moins forte dans les récits évangéliques, n'arrive pas à cacher un courant plus sombre, un courant dans lequel va plonger Jésus et qui le mènera à la croix quand toute cette foule de pacotille, peut-être, aura disparu. Mais ce que ces textes d'abord disent, c'est à Dieu seul la gloire, gloire à celui qui inspire ce Christ sur son petit âne en face des puissants et de la pseudo-gloire du temple et de la pseudo-gloire de l'Empire romain. Celui qui entre à Jérusalem n'a pas à être considéré comme un dieu, Et il fait bien, car toutes les tentatives d'imiter la gloire de Dieu sont ringardes, et on s'en moquerait bien de cette ringardise, si on n'avait pas peur de mourir ou de croupir dans une prison à cause de la puissance glorieuse du souverain. Ce roi sur son âne, vous aurez le temps pour le diviniser, semblent dire les auteurs des évangiles. Vous aurez le temps pour le diviniser. Sa mission, là, aujourd'hui, n'est pas accomplie. Il ne fait pour l'instant que relayer le message du prophète Zacharie. À Dieu seul la gloire, à bas les armes. Et finalement, tant mieux si des gens jettent des vêtements et des branchages. Ce n'est finalement pas grand-chose face à la puissance de tous ces règnes glorieux. Cette entrée des rameaux, c'est l'entrée dans l'espérance qu'un jour, le règne, la puissance et la gloire ne soient conférés qu'à Dieu seul. Un Dieu qui aurait été libéré de sa cage, comme Jésus a peut-être l'intention de libérer le Dieu au fin fond du temple de Jérusalem, un Dieu sorti de sa cage, mais ayant regagné son septième jour. Et nous, sachant qu'il règne même s'il se repose, nous, eh bien, nous serions débarrassés de nos illusions, de nos engouements, de nos hypnoses et aussi de nos désirs de ressembler à Dieu. Nous devenant plus à même d'être responsables les uns des autres et de vivre enfin en paix. Hosanna, disent les gens, ce qui veut dire sauve donc. Amen.